On s'est réunis autour d'un verre.
On a parlé d'art et d'histoire.
On a fait un podcast.
Bienvenue sur Godet Amos. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Godet Amos. Alors ce soir, pour discuter art et histoire, j'ai en ma compagnie Arne.
Bonsoir.
Et Charles.
Bonsoir.
Alors, on est très heureux de pouvoir enregistrer ce tout premier podcast de Godet Amos. En tout cas, moi je le suis, je ne sais pas vous.
Je suis très très heureux d'être ici avec vous deux.
Ma joie sans borne.
On a décidé de se réunir à Zaventem. Non.
Askerbeek, juste Askerbeek, c'est juste qu'on entend les avions.
Voilà, on entend extrêmement fort les avions, donc vous l'entendrez peut-être en fond sonore de temps en temps. Alors, on est très content d'être là. Désolé si vous entendez quelques petites voix éraillées à un moment donné, mais nous avons perdu l'usage de nos cordes vocales lors du match de la Belgique qui a eu lieu ce vendredi, n'est-ce pas ?
Exactement, une élimination du Brésil dont on s'en souviendra pendant très très longtemps et qu'on racontera à nos enfants et petits-enfants.
Je me souviens très très bien. Ouais.
Et on a hâte parce que demain se déroulera le match qui opposera la Belgique à la France.
C'est ça, et donc vous saurez déjà en écoutant ce podcast. Vous serez en avance sur nous.
Voilà.
Et vous saurez si on doit rire ou pleurer.
Voilà, donc pour nous, ce sera un bon souvenir de se dire qu'on était encore dans l'ignorance
exactement
totale du résultat de ce match.
Ok, oui.
Alors, Arne, dis-nous en plus sur le principe du podcast.
Donc, Godet Amos, c'est un podcast qui veut parler d'histoire, non pas spécialement de Belgique, mais d'histoire belge, c'est-à-dire des histoires en lien de près ou de loin avec la Belgique. Et tout ça accompagné d'une bonne bière.
Et donc en fait, le principe, c'est qu'on se réunit une fois par mois donc, autour de ces fameux événements et de cette fameuse bière. Et donc, ce, chaque fois dans un endroit différent de Belgique, donc qui est lié à l'expérience qu'on voudra vous faire vivre. Et du coup, aujourd'hui, eh bien, puisque nous nous trouvons dans cette jolie ville de Bruxelles, on a décidé de vous parler d'un personnage, ma foi, trop peu connu en fait de l'histoire belge, alors que son parcours est tout à fait intéressant. Et il s'agit eh bien, de la duchesse Marie de Bourgogne.
Comme l'a dit Charles, donc, on parle bien de duchesse de Bourgogne, et peut-être que cela vous fait donc penser à une bière bien célèbre, assez particulière. Arne, tu as quelques infos sur cette bière ?
Mais oui, la duchesse de Bourgogne, c'est une bière de la brasserie Verhage, qui se situe en Flandre occidentale, dans la petite commune de Wicht, que probablement personne ne connaît, en tout cas moi certainement pas. En gros, c'est proche de Courtrai, proche de Lille, pour nos amis français qui nous écoutent également. Et c'est une très très bonne bière.
On va la débouchonner justement à l'instant.
Apprêtez vos tympans.
Entendre le doux son.
Oh oui.
Alors, on peut la verser. Alors, on va écouter ce doux son.
Glou 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 glou.
L'avion entend plus l'avion.
On entend plus l'avion que le bruit de la bière, tout à fait. Un tout grand merci, l'ami Charles. Alors, il est bon de savoir que c'est une bière plutôt rouge, brune, même dirons-nous un beau petit mélange. Un mélange également de deux bières, à savoir une jeune et une un tout petit peu plus ancienne. Il faut savoir qu'elle est mûrie en fût de chêne, et c'est donc ce qui va lui donner un petit goût boisé entre la bière lambic et le cidre, justement. Alors au niveau de l'arôme, je ne sais pas si...
Je sens c'est une bière avec un malt très très torréfié. Mm-hmm. Donc, et surtout, le houblon est très peu amer. Et donc c'est clairement une bière qui est très fruitée et pas du tout amère.
Ça c'est ce qu'on est censé sentir alors que Charles la goûte déjà. Parce que j'aimerais d'abord vous dire santé.
Santé.
Mes amis.
Ça, je testais le poison.
C'est ça.
Tu fais bien.
À Godet Amos et à nos auditeurs qui nous écoutent.
Voilà. Et on vous invite aussi à boire une petite duchesse.
Une petite, tout à fait. Alors... Bien ma foi, elle n'est pas mauvaise du tout, alors on va éviter...
On sent bien le côté ambré.
Voilà, très bien, très sucré, hein. Très très intéressant, elle n'est pas trop forte, hein. Elle fait, attention en regardant la bouteille, 6 degrés, 6,2 pour être plus précis. Et on va éviter de vous faire tous nos bruits de déglutition, de posage de verre, etc., etc. Les avions, malheureusement, on n'a pas pu les dévier pour la soirée, mais voilà, on va essayer de vous éviter le plus possible les petits tracas, justement, de la dégustation. En tout cas, voilà, c'est une brasserie qui est assez sympa. On aimerait bien aller la visiter, un de ces quatre. Hein. C'est quand même une brasserie familiale qui remonte au 19e.
Oui, tout à fait. 1885, je pense. Donc, clairement, une brasserie ancienne et où donc les brasseurs se succèdent de père en fils.
Et le choix, justement, du nom Duchesse de Bourgogne n'est pas anodin, justement, en lien avec ce personnage très important. Charles, un petit point d'histoire ?
Mais certainement. Donc, Marie de Bourgogne, c'est la fille d'un grand seigneur, donc c'est la fille de Charles de Téméraire, duc de Bourgogne, et donc qui appartient à ce qu'on pourrait appeler la famille de Valois-Bourgogne. Donc ça veut dire, Valois, c'est le même nom en fait que les rois de France. Donc ce sont des ducs qui descendent des rois de France, de Saint-Louis en particulier, qui un jour ont reçu un terrain, on se rappelle un apanage, donc ça veut dire une seigneurie très importante vu qu'ils n'étaient pas les fils aînés des rois de France. Et cette seigneurie importante, eh bien, ça a été le comté puis le duché de Bourgogne. Et alors, ici, donc, nous sommes au 15e siècle, donc il y a déjà quelques ducs de Bourgogne qui sont succédés dans cette propriété-là. Et Marie prend le relais à ce moment-là. Alors, la Bourgogne, eh bien, elle a deux voisins très puissants, donc la deuxième moitié du 15e siècle. Alors, à gauche, à l'ouest, et même en bonne partie au sud aussi, on a le royaume de France, donc qui appartient à leur cousin des Valois de France. Et de l'autre côté, à l'est, on a aussi un territoire qui est puissant, on va dire puissant sur la carte, qui est le Saint-Empire romain germanique. Donc ça, on s'entendrait plus de détails tout à l'heure. Et donc voilà, donc on est vraiment dans un territoire, on pourrait dire, tampon entre deux espaces clés de l'Europe, et on est dans une époque, en fait, qui est très intéressante parce qu'elle est à la transition entre deux mondes. Donc ça veut dire que la fin du 15e siècle, comme tout le monde le sait, eh bien, je veux dire, le Moyen-Âge meurt petit à petit. Les historiens ne sont pas tout à fait d'accord sur les dates, mais à la grosse louche, on dit que c'est soit 1456, soit 1492 pour la fin de la période. Donc c'est l'époque de grande transition. Et donc Marie se trouve vraiment, en tant que femme, au pouvoir, à un moment qui est tout à fait critique de l'histoire européenne. Et c'est ce qu'on développera par après.
D'accord. Donc, juste pour résumer un tout petit peu, hein, donc au niveau de la ligne du temps, on se trouve donc vraiment dans la fin, le dernier tiers, dirons-nous, du 15e siècle. Tout à fait. Au niveau géographique, donc les Bourguignons, c'est assez étendu. On a une première partie qui se trouve dans le sud de la France.
Oui, mais entre le nord de la Suisse et le sud de la France, ça va...
C'est vraiment la Bourgogne actuelle. Donc on a un grand espace géographique qui est donc situé autour de Dijon, pour faire relativement simple, et qui est assez grand. Puis quand même une bonne séparation entre ces états bourguignons au sud, et alors nos territoires des Pays-Bas, ici. Donc quand je dis Pays-Bas, c'est-à-dire c'est les Pays-Bas de l'époque, c'est-à-dire Pays-Bas actuels et Belgique actuelle. Et alors donc, on se retrouve vraiment avec une séparation entre les deux, et tous les états donc ici au nord.
D'où notre intérêt, justement, pour cette période, vu qu'on est vraiment complètement dans le territoire de la Belgique actuelle, telle qu'on la connaît, à l'exception de la principauté de Liège, dirons.
Qui est un peu compliqué, ça.
Voilà. Donc c'est toujours un peu compliqué d'essayer de réussir à résumer la géographie à l'époque. Mais il faut bien comprendre qu'il y a quand même une petite partie de la France. Hein. Donc à ce moment-là, on parle de la Flandre. Mmh. Et donc il y a vraiment Calais, Lille... Enfin, Calais, à ce moment-là, est anglaise, justement, mais bon, on a tout ce qui est en dessous de Calais, qui est justement dans le giron des Bourguignons à l'époque, de ces Pays-Bas bourguignons, comme on les appelle, donc.
Il est aussi important aussi de préciser, c'est que on hésite toujours avec les termes, c'est-à-dire les anciens territoires de la Belgique, Belgique actuelle, etc., c'est que, en fait, le peuple qui habite ces territoires-là, donc ça fait longtemps, ça fait des siècles, en fait, qu'il se fait appeler peuple belge, donc c'est comme une espèce d'identité commune, mais c'est pas pour autant que le territoire s'appelle Belgique. C'est-à-dire, comme vous le savez tous, la Belgique est indépendante depuis 1830, et auparavant, on a toute une série de territoires qui vont composer cet espace-là. Donc,
Et c'est donc dans ce contexte que va naître un jour notre chère Marie. Arne, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
En fait, je vais parler surtout de l'endroit où elle est née. Cet endroit, c'est le palais du Cordenberg. Donc c'est un château qui, malheureusement, n'existe plus aujourd'hui. C'est un château qui a complètement été ravagé par un incendie. Et ce château, c'est l'ancienne place fortifiée de Bruxelles. le palais du Kautenberg. Donc il se situe sur la colline du même nom. Mais donc voilà, ce château finalement va, et c'est là que d'où vient toute son importance, va finalement ne plus être intégré dans une enceinte et perdre son rôle fortifié. Et c'est là qu'il va vraiment prendre beaucoup d'importance parce que ça va vraiment devenir un château d'apparat, avec notamment l'ajout de différentes salles, de salles d'apparat, des chambres, un parc même. Et quand en 1430 le duché de Brabant devient bourguignon, Philippe le Bon à l'époque, en fait, se fait nommer duc de Brabant par les états généraux. Le château va vraiment prendre beaucoup d'importance, avec notamment donc l'ajout de l'Aula Magna, qui est cette grande salle d'apparat où auront lieu différents événements extrêmement importants. C'est une salle qui accueille les états généraux, c'est une salle où Charles Quint a abdiqué notamment. Pour terminer sur une dernière note sur ce palais, pour exprimer le faste, y étaient notamment invités des grands artistes. Et dans cet incendie, ben, on a perdu un grand nombre d'archives, de peintures. Donc voilà, les pères sont vraiment inestimables. Mais finalement, c'est dans ce faste qu'est née notre chère duchesse de Bourgogne, Marie.
Comme le disait Arne, Marie va donc naître dans ce somptueux palais du Kautenberg le 13 février 1457. Alors elle est la fille de Charles le Téméraire et d'Isabelle de Bourbon. C'est intéressant de savoir qu'elle va être baptisée 4 jours plus tard et que son parrain sera justement Arne.
Louis XI, qui est à l'époque donc le dauphin, donc c'est-à-dire le successeur au trône de France, qui à ce moment-là est en froid avec son père Charles VII et qui est réfugié au château de Genappe. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Philippe le Bon a invité Louis, donc le futur Louis XI, à Genappe. Il lui fournit même une pension qui s'élève à plusieurs milliers de livres. Aucune idée de ce que ça vaut, mais je pense que...
c'est beaucoup.
Je pense que c'est beaucoup. Ça doit vraiment être pas mal. Et juste pour déjà couper le suspense, Louis XI va vraiment profiter de cette présence très proche de la cour des Bourguignons pour justement les observer, voir comment ils fonctionnent, et complètement se retourner contre eux. C'est cette invitation de Philippe le Bon à Louis XI va complètement, finalement, être un coup dur dans le futur pour les États bourguignons, qui perdront énormément de possessions.
Alors il est bon de savoir que ce sera l'unique fille de Charles le Téméraire, et ça aura énormément d'importance par la suite. D'ailleurs, il faut savoir que Philippe le Bon, donc son grand-père, est tellement déçu du fait que ce soit une fille et non pas un garçon qui naisse, qu'il n'assiste même pas à la cérémonie.
Et pourtant, il a bien tort, parce que le destin de Marie de Bourgogne est justement très très intéressant, et ce qu'elle va parvenir à faire est assez impressionnant. Et elle est d'ailleurs très très bien formée. Elle est peut-être très jeune quand elle accède au titre de duchesse, mais elle va peut-être être inexpérimentée au début, mais dans son très court règne, elle a vraiment accompli de grandes choses.
Alors qu'elle va passer quelques années au château du Quesnoy, il faut savoir que c'est dans l'actuel Nord-Pas-de-Calais, qui est donc sous domination bourguignonne à l'époque, c'est l'ancienne résidence des comtes de Hainaut, et à 6 ans, elle va quitter donc, le château du Quesnoy, qui justement est trop proche de la France et donc des armées de Louis XI, pour aller s'installer à Gand. Et c'est là qu'elle va passer la majeure partie de son enfance.
C'est ça, et donc c'est aussi pour illustrer, Louis XI s'est vraiment très très vite retourné contre ses anciens protecteurs bourguignons.
Le destin de Marie va être marqué par la mort de ses parents, donc il faut savoir que sa mère va mourir quand elle aura 8 ans, elle va décéder de la tuberculose. Dès la mort de sa mère, elle va participer à la tournée inaugurale de son père, hein, qui devient nouveau duc de Bourgogne et qui va l'habituer, donc très jeune, à la vie publique, tu l'as dit. Ah, donc ça c'est très très intéressant. Et Charles le Téméraire va conditionner le destin de Marie de par les conquêtes qu'il va désirer réaliser. Arne, qu'est-ce que tu peux me dire sur les conquêtes de Charles ?
Oui, mais Charles le Téméraire, il a clairement des visées expansionnistes assez grandes. On l'appellera le Téméraire qu'après sa mort, mais de son vivant, on l'appelait Charles le Hardi. Il avait encore quelques autres noms, mais ça, on va passer. Et le but de Charles, encore plus que celui de ses parents, grands-parents bourguignons, c'est vraiment de créer un nouvel État. un État fort. Il crée notamment des institutions qui copient un peu celles de l'État français pour vraiment affirmer que lui aussi est au fait un grand souverain. Mais il va finalement avoir tellement de conquêtes que ces conquêtes seront vraiment très rapides, très grandes, mais elles seront surtout très éphémères.
Mais la vie de Marie va prendre un tournant décisif à la mort de son père, qui va mourir comme une merde lors du siège de Nancy.
C'est ça, en fait, il va s'enfuir et probablement tomber à cheval. Et là, il va se prendre un bon coup de hallebarde, je pense que c'est sur la tête.
Tout à fait, alors j'ai la citation exacte de je ne sais pas quel historien un peu obscur qui déclare qu'il a été entaillé par-dessus l'oreille jusqu'aux dents.
C'est quand même intéressant de noter que justement Charles le Téméraire est mort au combat, ce qui pour un prince ou un souverain de l'époque est tout à fait bizarre.
Oui, c'est beaucoup plus intéressant de les capturer et de demander une rançon. Précisons qu'il a aussi reçu un coup de pique dans les cuisses et un autre dans la région lombaire.
Ouais. Et je pense qu'ils aussi l'ont retrouvé à moitié nu.
Voire tout à fait.
Tout à fait nu et dévoré par les loups.
Voilà, il était complètement nu, mais à moitié dévoré par les loups. ne loupons pas la précision.
Exact, une très bonne précision, merci Mathias.
Je vous en prie.
Du coup, donc, il aurait été tué par quelqu'un qui ne le reconnaîtrait, ne l'a pas reconnu, par un hallebardier qui ne l'a pas reconnu. Et Charles aurait dit « sauver le duc de Bourgogne ». C'est bizarre, il parle à la troisième personne. Enfin, c'est bizarre, peut-être pas. Et donc, ce pauvre hallebardier aurait compris. Mais bon, tout ça est obscur.
Je ne sais pas si c'est le hallebardier qui est à plaindre ou plutôt le duc.
Mais bon, qui aurait compris « vive le duc de Bourgogne ». Et c'est plein de rage, ce serait dit « bon ben... » on va bien le tuer celui-là, on va lui faire morfler, et lui aurait donc mis ce bon coup de hallebarde
dans
la face. Mais passons là un peu les détails gore de ce pauvre Charles pour quand même passer à sa fille qui du coup se retrouve héritière du duché de Bourgogne.
Voilà, elle se retrouve héritière à un moment évidemment assez critique parce que son père a un peu foutu la merde avec Louis XI, qui de toute façon avait dévisé sur les territoires bourguignons. Et donc, très très vite, Marie va perdre en fait l'entièreté des territoires du sud, à savoir donc la Bourgogne actuelle.
Ouais, elle va vraiment garder de très faibles, quelques petites parties vont rester, mais en effet, pour tout ce qui est donc de la Bourgogne actuelle, elle va tout perdre. Et en plus de ça, donc ça c'est vraiment pour les troubles qui sont à l'extérieur du duché, mais en interne aussi, surtout dans nos régions, donc dans les Pays-Bas méridionaux, septentrionaux, enfin dans les Pays-Bas bourguignons, là aussi elle va vraiment se retrouver confrontée à un grand nombre de problèmes, parce que les habitants des Pays-Bas bourguignons ne sont vraiment pas contents, ils en ont vraiment marre que ces ducs de Bourgogne centralise au maximum beaucoup d'institutions.
Alors, il faut savoir qu'au tout début, c'était une très bonne idée, parce qu'ils l'ont fait en laissant une certaine autonomie déjà dans les villes qui commencent à prendre de plus en plus d'importance. Donc, on a vraiment un développement de la ville en général, mais ça n'a pas suffi à calmer les velléités de ces villes qui, justement, commencent à grandir de plus en plus.
Non, et en plus de ça, bon, beaucoup de villes se sont révoltées. Plusieurs fois, on pense notamment à Liège, on le citait, je pense, tantôt dans le podcast, qui à un moment avait clairement un membre de la famille bourguignonne comme prince-évêque, enfin comme évêque, et donc les habitants de Liège n'étant pas du tout contents de cette nomination vont se révolter. Et donc voilà, on a toute une série de révoltes comme ça qui ont lieu dans différents endroits, qui donc sont qui posent vraiment problème aux habitants. Et cette centralisation, notamment, pose également problème. Et cette centralisation, comment est-ce qu'elle se marque ? C'est vraiment par des institutions, comme par exemple ce qu'on appelle la chancellerie de Bourgogne, qui est une chancellerie qui s'occupe de toutes diverses affaires politiques, un conseil ducal qui rassemble les gens issus des différents pays du souverain, un grand conseil qui est la haute cour de justice, également une chambre des comptes qui s'occupe de la gestion des officiers des recettes. Il faut savoir que les provinces, les différentes provinces, Donc que ce soit les duchés de Brabant, comté de Namur, duché d'Hollande et ainsi de suite. Ou comté d'Hollande, pardon, je ne sais plus. Un des deux. Bref, on s'en fout.
Tout à fait. Nous, on n'est pas trop dans le détail.
On n'est clairement pas trop dans le détail. Mais en tout cas, pouvait vraiment... Le souverain Bourguignon devait à chaque fois avoir l'aval de ses différents conseils dans les provinces pour pouvoir lever des impôts. C'est d'ailleurs la Flandre qui paye le plus, au fait, pour toutes les guerres que menaient les Bourguignons. Et bien sûr, les populations ici ne voyaient pas ça d'un bon œil, de payer pour des guerres qui, finalement, ils voyaient comme étrangères. Et donc, nos contrées n'étant pas du tout contentes avec cette centralisation, mettent vraiment la pression sur Marie de Bourgogne, et elle va être obligée d'accorder ce qu'on appelle le grand privilège de Marie de Bourgogne, quelques mois directement après la mort de Charles le Téméraire. Alors, on pourrait se dire que c'est un peu un retour en arrière, où les provinces gagnent une certaine indépendance à nouveau. Mais au fait, c'est beaucoup plus subtil que ça, parce que c'est également la reconnaissance, finalement, de la dynastie de Marie de Bourgogne et de son acceptation comme souveraine de nos régions. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. C'est oui, en effet, d'un côté, les États ont à nouveau plus d'importance, et ce sera de relativement courte durée, mais en même temps, nos États, ici, acceptent vraiment Marie de Bourgogne. Et en même temps, c'est également le début d'une législation unitaire. Il y aura clairement encore des législations provinciales qui subsisteront jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, mais ça commence quand même vraiment à avoir les accents d'une législation unitaire. Et là-dedans, dans toute l'histoire de la fondation de la Belgique, qui est quand même extrêmement longue, ça revêt clairement son importance dans tout ce cheminement. Le but, c'est aussi vraiment d'accentuer les richesses de ces territoires, et c'est surtout dans le domaine économique qu'on va vraiment voir une unification assez importante, parce que le but, c'est vraiment de créer un marché cohérent. On pourrait penser limite à... C'est déjà une petite union européenne, qui bien sûr à l'époque, c'est juste sur différentes provinces, mais ça a clairement son importance.
Bah d'ailleurs, on a une monnaie unique qui va être frappée à cette époque.
C'est ça.
Alors ces privilèges permettent donc de résoudre ces troubles internes, mais très vite, donc comme j'avais dit, Marie va être poussée à améliorer justement la situation par rapport à son voisin, le roi de France. Elle va donc se marier avec Maximilien d'Autriche, qui va lui amener une certaine stabilité justement au niveau militaire.
Et ce qu'il faut savoir avec ce Maximilien d'Autriche, c'est un Habsbourg, c'est Maximilien d'Habsbourg, et les Habsbourg, bien sûr, tout le monde connaît, enfin peut-être pas, mais... En tout cas, beaucoup connaissent les Habsbourg, c'est Charles Quint, c'est les grandes familles de Habsbourg qui ont subsisté jusqu'à... Enfin, qui existent encore, hein, encore un Habsbourg de nos jours, mais sauf que c'est juste un gros riche et on s'en fout.
Et on le salue d'ailleurs.
On le salue, j'espère qu'il nous écoute. Mais qui subsiste, en tout cas, qui est une famille régnante d'empereurs jusqu'à la Première Guerre mondiale, donc... On marque ici vraiment le début également d'un très très grand empire avec cette union avec Maximilien de Habsbourg.
C'est extrêmement intelligent parce que Marie permet de s'assurer un soutien important qui va donc lui venir d'Autriche et des différentes régions allemandes qui sont morcelées à l'époque, on ne les connaît pas comme actuellement. Et en même temps, pour les Habsbourg, c'est un pied très important dans les territoires bourguignons avec ce mariage avec une héritière qui a été considérée comme l'héritière la plus fortunée, justement, de l'époque. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant pour tous les deux.
Alors, il faut savoir aussi, Marie, elle a eu énormément de prétendants. C'est surtout, bien sûr, son père qui essayait d'organiser ça. Hein, il voulait bien sécuriser tout ça. Il se disait, j'ai une fille, je vais en profiter. Alors, il y a eu des plans de la marier avec le frère de Louis XI, mais là, c'est Louis XI qui n'en voulait pas. Lui, du coup, on a profité pour la proposer à son propre fils. À un moment, donc, il y a eu ces plans pour la marier avec donc, l'archiduc Maximilien, qui est donc le fils de Frédéric III, qui est empereur du Saint-Empire à ce moment-là. Mais là, finalement, c'est l'empereur lui-même qui n'en voulait plus. Et finalement, c'est à la mort de Charles le Téméraire que la situation va se débloquer et qu'elle se mariera quand même avec ce Maximilien.
En gros, elle est dans les tractations depuis l'âge de ses 5 ans. Et effectivement, c'est vers Maximilien que va se porter son choix, mais on l'a dit aussi également poussé par les différents conseillers qui viennent de ces différents territoires. Donc Marie va épouser le 21 avril 1477 ce fameux Maximilien Ier de Habsbourg.
Alors, qui est le futur empereur ?
Qui est le futur empereur ?
Du Saint-Empire. Qui sera donc comme son père et ses descendants le seront également.
Suite à ce mariage, ça va aller assez vite. Hein. Donc Maximilien, aidé par des soldats anglais et des soldats allemands, va donc stopper l'avancée de Louis XI, notamment lors d'une grande bataille qui va complètement stopper les hostilités, à savoir la bataille de Guinegat, si je le prononce bien.
Probablement.
Espérons-le, donc 2 ans plus tard, en 1479. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 grosses batailles qui vont avoir lieu à Guinegat. On reparlera peut-être un jour de la deuxième, mais ce sont vraiment 2 grosses batailles qui se déroulent sur un même territoire. Alors donc, Maximilien lui va ramener environ 27 000 hommes, alors que du côté français, on compte 10 000 hommes, à peu près. Et pourtant, c'était pas gagné. Hein. Donc à un moment donné, il y a une tactique française qui porte ses fruits. Malheureusement, les Français vont poursuivre les troupes de Maximilien qui vont s'enfuir, mais une partie de ses troupes va rester et va commencer à prendre le dessus justement sur la bataille. Et à un moment donné, quand les Français vont revenir, ils vont découvrir leurs troupes complètement décimées. Donc ça va les condamner à leur perte, alors que les Français avaient quand même une 40aine de canons. Donc ça, c'est quand même assez important. Mais les pertes vont être catastrophiques. On considère que Maximilien a perdu plus d'hommes que les Français, justement, mais on va considérer que c'est Maximilien qui en sort vainqueur. Et donc là, ça va vraiment stopper net l'avancée de Louis XI. Et donc, on considère qu'à partir de ce moment-là, on peut arriver à une sorte de paix dans laquelle les arts peuvent continuer à se redévelopper, justement.
Donc, Maximilien va clairement perdre certains territoires, que ce soit la Bourgogne ou la Picardie. D'un autre côté, il va vraiment bien sécuriser les provinces flamandes, le Hainaut. D'autres sont dans une situation un peu plus incertaine, que ce soit l'Artois, Franche-Comté, Charolais, tous ces endroits qui me sont complètement inconnus, mais qui m'évoquent des noms de vins.
Oui, on ira en vacances là-bas.
On ira en vacances là-bas, parce qu'on adore la bière, mais le vin, c'est aussi pas mal. Et donc voilà, c'est vraiment une nouvelle période, en effet, qui s'ouvre pour les provinces bourguignonnes.
D'ailleurs, je vous ai trouvé 2 petits artistes qui sont assez intéressants pour l'époque. Alors, c'est très compliqué de pouvoir vous parler d'une période aussi courte, justement, que celle du règne de Marie de Bourgogne.
25 ans.
Notre sujet, 25 ans. Mais donc là, tu spoiles déjà la fin. C'est vrai, je ne voulais pas donner de notes précises. En tout cas, c'est très compliqué de sélectionner un artiste pour cette période-là, parce qu'on parle généralement de la période bourguignonne, d'un développement dans les arts et dans l'économie qui est extrêmement important. Et justement, on aimerait vous en reparler lors d'un podcast qui serait beaucoup plus axé sur une période bourguignonne, sur son développement, sur le développement des différentes villes. En tout cas, ici avec Marie, on est vraiment sur une période très très courte. Et donc, c'est pratiquement impossible de trouver un style architectural ou vraiment un peintre ou un sculpteur qui serait assez marquant à l'époque. Je vous ai tout de même trouvé 2 artistes, à savoir Hugo van der Goes. Ça fait vraiment... Enfin, il fait partie des peintres flamands les plus importants et innovants de son époque. Et il va réaliser une de ses pièces les plus importantes en 1475, justement pour des banquiers, hein, des représentants des Médici ou Medici, si on veut le dire un petit peu à l'italienne, qui se trouvent à ce moment-là à Bruges. Alors, il faut savoir que Bruges, c'est vraiment une ville très très importante à l'époque, hein. Ça va changer, ça a déjà commencé à changer justement avec l'ensablement qui va commencer à enclaver tout doucement la ville, et donc vous allez avoir le développement de plus grosses villes comme Anvers, Rotterdam, Amsterdam, mais voilà, ça on pourra en parler justement dans un autre épisode. Mais en tout cas, Bruges, qu'affectionne particulièrement Marie de Bourgogne, va voir se développer beaucoup de peintres justement qui vont être mis en relation avec des étrangers qui viennent avec énormément d'argent et qui vont permettre un développement artistique très très important dans la région. Donc Hugo van der Goes, justement, va réaliser ses plus grandes œuvres à ce moment-là. Alors lui, on va pouvoir lui attribuer très peu d'œuvres, alors que Hans Memling, qui est quand même un très grand nom chez les primitifs flamands, va voir 1000 d'œuvres lui être attribuées. Et il est très intéressant de voir comment le destin de Hans Memling et comment sa production artistique est intimement liée à la période d'incertitude qui va suivre la mort de Charles le Téméraire. Donc il faut savoir qu'au tout début, bon, Hans Memling, lui, c'est un peintre considéré comme un primitif flamand, mais qui va d'abord naître en Allemagne, hein, qui va transiter par Cologne avant d'arriver à Bruges, qui va travailler à Bruxelles, hein, dans l'atelier de Rogier van der Weyden, donc c'est quand même pas n'importe qui. En tout cas, donc, il va se diriger vers Bruges à un moment donné, donc comme je vous l'ai dit, hein, qui est vraiment une ville très très importante, c'est la plaque tournante du commerce et de la finance à l'époque, et donc il y a de nombreux négociants et artisans de toutes les nationalités qui vont transiter par la ville. En 1480, Memling est vraiment au sommet de sa carrière. Donc on peut considérer que les 15 années qui vont précéder coïncident avec une stabilité économique et politique dans la région. Mais avec la mort de Charles, toute la situation dans les Pays-Bas bourguignons, comme on l'a dit, va être complètement ébranlée. Et donc les grandes banques italiennes, et notamment la Banque de Médicis, vont se retirer de l'Europe du Nord. Du coup, les seuls clients qui vont rester pour Memling, ce sont les bourgeois un petit peu vieillissants qui vont rester dans la ville de Bruges. Donc on voit vraiment comment, à un moment donné, les conditions politiques et territoriales peuvent influencer même la production d'un peintre tel que Hans Memling.
C'est fort intéressant, ma foi, de voir à quel point art, politique et économique sont tellement liés.
Tout à fait, c'est pour ça qu'on fait ce podcast.
Absolument.
Absolument. Marie ne va pas pouvoir profiter très longtemps de cette période de stabilité, malheureusement.
Bah oui, Marie meurt accidentellement le 27 mars 1482. Quelques jours avant, donc, elle a été chasser le faucon à cheval en compagnie de son époux. Et bah, elle tombe de ce cheval, de son cheval. Je suis désolé.
Je t'en prie. C'est pas évident. Hein. C'est pas comme si on parlait de la mort de quelqu'un.
Et là, donc, elle tombe de son cheval et donc elle meurt quelques jours plus tard dans le Prinzenhof, qui entre-temps, Mathias, est devenu un hôtel de luxe, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Alors, je n'ai plus le nom. Ah si, évidemment, c'est le Kempinski Hotel Dukes Palace.
Et vous, un hôtel 5 étoiles.
Oh, très bien. Je vois que vous avez été checké sur Internet.
Ouais, le prix, c'est... surtout, sont très intéressants.
Bah, ah, t'as vu le prix aussi ?
Ah, c'est abordable.
C'est parce que je te l'ai dit. Donc, vous pouvez loger dans la suite Marie de Bourgogne pour 400 € la nuitée. Donc, n'hésitez pas à aller vous imprégner de toute l'histoire de Marie et de sa mort au Prinzenhof. Peut-être qu'elle hante encore les lieux, qui sait ?
J'espère.
Ce podcast n'est pas sponsorisé par le Kempinski Hotel.
J'allais le dire. Enfin, si le Kempinski veut sponsoriser ce podcast, n'hésitez pas à nous contacter.
Voilà, on veut bien y passer une nuit. Hein.
Exactement, ce serait un grand plaisir. Mais oui, donc elle aura quand même quelques jours avant de mourir et elle me marquera apparemment ses derniers vœux. Elle aura le temps d'écrire de court.
À ses dernières volontés.
Ses dernières volontés.
Bah, c'est important. Hein. Et par contre, j'aimerais préciser tout de même que vous pourrez retrouver au Louvre une sculpture qui présente donc Marie de Bourgogne à cheval, justement en train de tenir un faucon dans sa main. Donc si un jour vous vous baladez au Louvre et que vous tombez sur cette sculpture, vous connaîtrez maintenant toute l'histoire de cette brave Marie de Bourgogne.
En tout cas, une partie de l'histoire.
Une partie de l'histoire, on n'a pas prétention à exhaustivité, bien évidemment. Marie va donc être enterrée en l'église Notre-Dame de Bruges, hein, qu'elle aimait particulièrement. Alors elle va avoir un très beau tombeau, il faut savoir que le tombeau de son père, justement, donc on vous a dit hein, qu'il va être retrouvé nu, à moitié dévoré par les loups près des murailles de Nancy, donc en fait il va être gardé un petit peu comme trophée. Pendant tout un temps, il va falloir attendre Charles Quint pour qu'il puisse être rapatrié. Et donc, il va être réalisé complètement à l'identique. Donc, maintenant, vous pouvez aller voir le tombeau de Charles le Téméraire et de sa fille Marie de Bourgogne. Mais en tout cas, déjà à ce moment-là, on considère que les conditions sont dramatiques dans la réalisation de ces deux tombeaux. Il faut savoir qu'en fait, les dorures au feu sur bronze, qui sont considérés comme étant les joyaux de ces tombeaux, se fixaient en fait par le mercure qui, en s'évaporant, va pénétrer dans la peau ou par les voies respiratoires. Donc on va avoir des déchaussements et des pertes de dents, on va avoir la paralysie ou bien la mort.
En allant visiter le tombeau ?
Non, en le réalisant.
Ah oui.
Donc voilà, c'est le procédé de dorure, en fait, qui va amener les différentes personnes qui vont y travailler à perdre leurs dents, à être paralysées ou à mourir, dans le pire des cas.
Chouette perspective.
Tout à fait. On a des troubles digestifs aussi, ça va, c'est un petit peu moins, moins malheureux. Il faut savoir que le doreur donc, de la tombe de Marie de Bourgogne va être paralysé, comme plusieurs de ses ouvriers. Et alors, il y en a qui vont recevoir plusieurs dédommagements, justement, pour les indispositions dues aux vapeurs de mercure. Par la suite, les révolutionnaires français ne vont pas laisser tranquilles les tombeaux qui se trouvent dans les églises. Hein, donc, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces révolutionnaires ?
Je sais pas, ils vont sûrement les saccager, non ?
Oui, bah, ils vont bannir tous les signes rappelant la féodalité. Les chanoines vont très vite enlever les gisons et les corps. La tombe de Marie va être profanée. Et puis ensuite, il va falloir attendre la restitution des tombeaux hein, sous Napoléon vers 1810 pour que les restes reviennent dans l'église. Mais on n'est même pas sûr que ce soit bien les restes de Charles le Téméraire. Donc voilà, c'est toujours un petit peu incertain. En tout cas, les tombeaux sont toujours là et vous pouvez bien sûr aller les visiter. N'hésitez pas, surtout que Bruges est une très jolie ville. En tout cas, c'est là-dessus que se termine notre podcast. Je ne sais pas, Arne, si tu veux rajouter quelque chose.
On peut peut-être faire un petit résumé de tout ce qu'on vient d'entendre.
On peut tout à fait faire un résumé, c'est une très bonne idée.
En résumé, le règne de Marie, vous l'avez entendu, il fut très bref. Hein, elle n'a eu que 25 ans. Son règne en tant que duchesse a duré 5 ans. Et pourtant, ces 5 ans, il s'est quand même passé des choses importantes, que ce soit une unité encore plus profonde de nos territoires, un mariage extrêmement important avec Maximilien, qui va donner naissance à Philippe le Beau et surtout plus tard au fameux Charles Quint, très 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 grand monarque qu'il ne faut plus présenter. Voilà, Marie, c'est vraiment un personnage très très important, très bref, mais intense de notre histoire.
Tout à fait, je pense qu'on ne s'attendait pas à voir autant d'éléments intéressants dans l'histoire de Marie, justement, en débutant nos recherches.
Et en plus, Marie nous a permis de boire une excellente bière, la Duchesse de Bourgogne.
Malheureusement, ce podcast touche à sa fin, mais on a été très heureux de pouvoir vous raconter toute l'histoire de Marie de Bourgogne. On espère que ça vous a intéressé, en tout cas, on a essayé de tout faire pour. On est très heureux d'avoir passé ce moment avec vous. On espère que c'est réciproque. Mes amis, moi, je suis très content de vous avoir vu ce soir et d'avoir pu boire bien des bières en votre compagnie.
C'était très très agréable, merci beaucoup Mathias.
Absolument mon cher, vivement à la prochaine.
Voilà, alors on vous dit à dans un mois. Alors on vous dit bye bye, et à la prochaine sur Godermousse.
Ciao ciao.
Salut salut.
Salut tout le monde.